Le sfumato, c'est l'estompage des contours qui consiste à effacer la ligne de contour. Et d'autant plus, on l'effacera que la figure se détache sur un fond sombre. Alors, c'est une technique mise au point, enfin, dont Léonard parle et qui l'intéresse beaucoup. Il n'est pas le seul à s'y intéresser. Antonio de Messine, le peintre sicilien, mais qui s'installe en fait à Venise dans le dernier quart du XVe siècle, en est un autre grand spécialiste. Le principe et la visée, la recherche de sfumato, on peut le résumer en deux points. Ça vient d'une grande tradition telle que Pline la rapporte, et qui est que la question du contour est la suprême subtilité de la peinture, parce que si le contour est trop visible, il crée une rupture dans l'image, alors que si le contour n'est pas visible, la peinture, et la formule est de Pline, promet même ce qu'elle ne montre pas. Et donc une possibilité de suggestion extraordinaire de la peinture par ce qu'elle cache. Bon, ça c'est d'où ça vient. Et où ça va, hein, la question de sfumato, quel est l'enjeu de cet intérêt pour sfumato à la fin du XVe siècle, eh bien, c'est l'idée de suggérer que l'image est vivante. Hein, parce qu'on rejoint le problème de la grâce, dont parle Vasari, qui dit « la grâce, c'est ce qui surgit entre le vu et le non-vu, et que possède les choses vivantes ». Donc le sfumato, il a cette double valeur, cette double, une double coordonnée autour de sfumato, la tradition de la question du contour et la recherche de la vie en peinture à la fin du XVe siècle. Dans la peinture Léonard de Vinci, il y a un point qui, moi, me paraît très important parce qu'on l'a vraiment oublié. C'est le fait que dans la vie que lui consacre Vasari, il dit que, à part la grâce, dont Léonard est un des grands inventeurs au début du XVIe siècle, une des caractéristiques de Léonard, c'est la terribilità de ses concetti, de ses concepts, et aussi des ombres de Léonard. Or, là, c'est très curieux pour un œil ou une oreille contemporaine, parce que pour nous, la terribilità, c'est Michel-Ange. Or, Michel-Ange et Léonard, c'est l'huile et le vinaigre, si j'ose dire. Alors, la grâce, c'est, à nouveau, c'est Vasari qui le dit, c'est une licence dans la règle qui, tout en étant dans la règle, échappe à la règle. Bon, c'est l'idée d'élégance, hein, l'idée de nonchalance du courtisan, c'est la sprezzatura dont on parle aussi, dont parle le courtisan de Balthazar Castiglione. C'est ce qui apparaît, le dit aussi Vasari, entre le vu et le non-vu, c'est-à-dire ce qui est indistinct et qui est la qualité même de la vie. Bon, c'est ça la grâce. Et la grâce est à la fois un idéal, c'est un mot clé, bien sûr, pour la culture de la Renaissance, parce que c'est un terme religieux, hein, c'est la grâce divine. Et certains artistes ont la grâce du créateur, c'est Vasari qui le dit aussi, donc un terme religieux. Ensuite, c'est un terme social, la grâce, c'est la grâce du courtisan qui sait imiter avec grâce le modèle qu'est le prince. Et puis la grâce, c'est aussi bien sûr un idéal de beauté esthétique, les trois étant intimement liés et inséparables. Ça, alors, c'est la grâce.
Alors comment est-ce que Léonard l'interprète, cette grâce?
Cette grâce, énorme question. Ben, il l'interprète d'abord, je dirais, en élaborant un type de figure et humaine, que ce soit masculine ou féminine, précisément esthétiquement gracieuse. Comment vous dire qu'elles sont esthétiquement gracieuses? Bien parce qu'elles prennent, disons, un type de visage déjà mis au point par le Quattrocento et fondé sur la régularité des traits. Et dans cette régularité, on introduit, enfin, Léonard introduit de petits excès. Hein, dans la forme des yeux, dans l'excès de l'ovale du visage, dans le sourire, par exemple, bon, qui sont donc dans la règle, et tout en étant dans la règle, échappent à la règle. Donc ça correspond à ce concept contemporain de grâce. Et puis la grâce, il l'obtient aussi tout simplement par le sfumato. Hein, le bord de la figure qui, selon un grand thème qui remonte à l'Antiquité et à Pline l'Ancien, fait que la peinture promet même ce qu'elle cache. Et donc ça, c'est de la grâce.
(1494, 1495, 1496, 1497) Milan, la Seine, fresque, réfectoire du couvent de Sainte-Marie des Grâces.
La Seine, Leonardo ne représente pas vraiment la Seine dans son idéalité, il représente un moment donné de la Seine. Hein, je crois que c'est le moment où le Christ dit « Celui qui mettra la main au plat en même temps que moi me trahira ». C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, chacun des apôtres se trouve déterminé dans son caractère, non pas de façon transhistorique, les quatre plus grands sont représentés par des animaux symboliques, non pas de façon symbolique, mais de façon humaine et concrète. La scène de Leonardo, c'est une scène qui se passe dans le monde. Elle ne se passe pas dans l'histoire de la religion. Elle se passe, bien sûr, c'est un événement de l'histoire religieuse et de l'histoire des testaments, mais Leonardo choisit d'en accentuer, si je puis dire, le caractère mondain. Non pas le caractère mondain comme va le faire Véronèse, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans son luxe, mais le caractère mondain dans les conflits mondains que la présence de la vérité fait surgir et qui s'inscrit sur chacun des visages et dans chaque attitude. Ce qui fait que l'ensemble du tableau est ordonné par le caractère et les attitudes répondant au caractère de chacun des apôtres. On a donc une sorte de partition formelle justifiée par l'intelligence et la capacité et le savoir qu'a Leonardo de représenter un caractère.
Léonard de Vinci, lui, est le premier à mettre Judas avec les apôtres, le premier à la fin du XVe siècle. Il y avait quelques exemples auparavant, mais dans une problématique tout à fait différente. Il met Judas parmi les apôtres. Alors nous reconnaissons Judas, bien sûr, puisqu'il est accoudé, il se retire loin du Christ et il a la bourse à la main. Donc c'est bien Judas. Simplement, il est beaucoup moins immédiatement visible. En fait, ce que Léonard de Vinci a inventé, entre autres choses, que la fresque contient énormément de choses à dire, mais entre autres choses, il a inventé la figuration du traître. C'est-à-dire comment représenter quelqu'un qui se cache. Et comme par hasard, cette figuration du traître, elle touche également au fait de la dissimulation. Et alors, Judas, c'est la dissimulation malhonnête, mais Léonard de Vinci, dans l'ensemble de sa vie, c'est l'honnête dissimulation, telle que le dira le traité de savoir-vivre du XVIIe siècle.
Un ignare bouffi dans l'obscurité, comme la citrouille ou le melon par excès d'humidité, ou la pomme que gonflent les lourdes averses. Non, tu ne l'as pas bien décrit, ne sais-tu pas? C'est un crâne tondu, absolument stupide. Mais il lui manque le chou ou la feuille d'une gourde pour détacher la teigne. Dis donc, Sandro, que t'en semble? Je te dis la vérité. Et je ne l'ai pas réussi.
Quels sont les rapports de Léonard et de Michel-Ange ?
Bien, les rapports sont fondamentaux, ils sont contemporains et sont deux des plus grands inventeurs de la Renaissance. Et ces rapports, si on en croit toutes les anecdotes biographiques, ont été très mauvais. Très mauvais parce que autant Léonard était gracieux, majestueux, mystérieux, autant Michel-Ange, avec son nez cassé et son sale caractère, était disgracieux et, comme le dit Ludovico Dolce quelques années plus tard, ne peint que des faquins, alors que Léonard ne représente que des gentilshommes. Bon, mais ça, c'est l'anecdote, de même que toutes les réflexions qui se seraient échangées et le degré de vérité historique des anecdotes, j'en doute fortement. Je pense que c'est le plaisir du romancier que de pouvoir, à partir de là, construire des biographies et faire une belle histoire. Et c'est passionnant, j'adore ce genre d'histoire. Cela dit, si je pense que ces anecdotes sont bien souvent construites après coup, elles sont construites pour rendre compte de quelque chose de bien réel et qui est la contemporanéité et la complémentarité des deux opposés, Michel-Ange et Léonard. Et il y a un moment, une date et un lieu très précis où ces complémentarités opposées se rencontrent, c'est le Palazzo Vecchio, au moment du grand concours, qui met face à face, mais ils doivent peindre tous les deux en même temps, sur deux murs de Palazzo Vecchio, de la grande salle Palazzo Vecchio, des scènes de bataille à la gloire de la ville de Florence. Et le choix des deux moments par les deux artistes est tout à fait remarquable, parce que Léonard de Vinci choisit, il nous reste dessin préparatoire, plus une copie par Rubens du dessin préparatoire, la bataille pour l'étendard, c'est-à-dire le comble de la lutte du chaos des passions humaines autour du symbole de la victoire, et c'est le cœur de la bataille. On sait qu'il avait conçu autour un immense paysage avec des groupes venant vers la bataille, et toute cette énergie universelle se condensant dans le chaos central du groupe de la bataille de l'étendard. Et Michel-Ange en face avait bien sûr pensé tout à fait le contraire. Il prend les combattants au moment où ils rassemblent leur énergie avant de se battre, c'est la bataille de Cascina où on voit les Florentins surpris et s'habillant alors qu'ils étaient au bain. Rien que le choix de ces deux moments révèle bien la différence de la conception des artistes. Pour ce qui compte pour Michel-Ange, c'est l'énergie humaine en tant qu'elle se concentre pour atteindre son but, et c'est cette énergie spirituelle qui intéresse Michel-Ange. Ce qui intéresse Léonard, c'est le spectacle du chaos qui prend sens. Et la bataille d'Anghiari représente ce chaos prenant sens autour de l'étendard. Par ailleurs, aucune des deux œuvres n'a finalement été finie, mais celle de Léonard, même si elle avait été finie, n'aurait pas tenu parce qu'elle s'est détruite déjà en cours de création, car la recherche technique qu'il avait faite pour cette fresque, en cherchant à renouveler la technique même de la fresque, faisait que l'œuvre ne pouvait pas tenir de toute façon.
La peinture coule.
La peinture coule en quel sens coule, ça... C-O-O-L. La peinture coule ou la peinture a coulé?
Enfin, a coulé.
Oui, c'est ça.
Elle s'est défaite.
Elle se défaisait parce qu'il a recherché une technique de fresque complètement inadéquate. Sa recherche-là aboutit à un échec. Et la peinture, il est parti à Rome après cet échec.
Marcelin Pleneux.
Voilà comment Leonardo décrit le moment où il commence cette bataille. Et vous allez voir qu'il y a presque une superstition des éléments et de la situation dans laquelle il se trouve au moment où il réalise une œuvre. Il écrit le vendredi 6 juin 1505. Sur le coup de 16 heures, j'ai commencé la peinture du vieux palais. Il s'agit de la bataille d'Anghiari. Au moment où je donnais le premier coup de pinceau, le temps se gâta. Le tocsin sonna pour appeler les gens à se rassembler. Le carton se déchira, l'eau se renversa et le vase d'eau qu'on apportait se brisa. Brusquement, le temps aussi ainsi gâté, ce fut la pluie en grande abondance jusqu'au soir avec un jour sombre comme la nuit. Moi, je trouve que c'est une description tout à fait extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'il est là.
Il y a un plaisir aussi à voir la chose se détruire, se défaire, non ?
Je ne sais pas. Moi, je dirais que ça va un tout petit peu plus loin. C'est une sorte de désespoir stoïque.
Rosenberg.
Ce qui est très troublant, évidemment, c'est Raphaël, à la même époque, qui, lui, cherche la perfection et l'obtient, et la conquiert, sans pour autant qu'on s'en rende compte. Ce qui est extraordinaire chez Raphaël, c'est qu'on ne sent pas l'effort. Tout vient tout seul, la perfection est absolue, mais l'effort pour la conquérir n'est jamais perceptible. C'est extraordinaire à cet égard, et je crois que les gens du passé n'avaient pas tort en le considérant comme le plus grand artiste de tous les temps, car il avait justement cette espèce de don à la fois de trouver les solutions les plus merveilleuses, les plus convaincantes, sans que pour ailleurs on sente la conquête de ces solutions. Chez Léonard de Vinci, on sent qu'au contraire, la perfection, il la sait inatteignable, et que par conséquent il la fuit, et qu'il y a toujours une espèce de fuite en avant, une espèce de volonté de fuir à tout ce qui fermerait le tableau et qui limiterait le monde de l'œuvre d'art aux quatre dimensions, enfin à la surface de la toile ou du bois. Et ça, évidemment, c'est très grand chez Léonard, mais en même temps, ça donne un sentiment d'insatisfaction et ça ne donne pas ce sentiment de plénitude et de joie que donnent les tableaux de Raphaël. Ça donne un sentiment d'inquiétude et peut-être peut-on aujourd'hui préférer l'inquiétude à la plénitude et à la joie. Le passé a préféré la plénitude de Raphaël. C'est un peintre dont la gloire est récente. Non pas qu'il ait été inconnu autrefois, loin s'en faut, mais si on avait posé au XVIIIe siècle la question de savoir quels étaient les grands peintres de la Renaissance italienne, il y aurait eu comme aujourd'hui Raphaël, il y aurait eu comme aujourd'hui Michel-Ange, mais je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu Léonard de Vinci, il y aurait eu plutôt Corrège. Alors Léonard est devenu extraordinairement populaire au XIXe siècle, et la Joconde est devenue l'espèce d'icône, de vedette absolue du Louvre, de tableau qui n'en est plus un, au point que nous ne savons pas comment traiter de sa présentation.
Olivier Debray.
Pour me moquer des Américains, je dis quel est le plus grand peintre américain et je dis c'est Léonard de Vinci, pour bien dire aux Américains qu'ils appartiennent à l'Europe occidentale et que ce qu'ils le trouvent est une dégénérescence de ce qui s'est passé. Et je dis toujours pour me moquer d'eux que Léonard, en fait, c'est le peintre occidental, l'incarnation de l'Occident. Vous savez, un jour, justement, j'étais au Clos Lucé, puisque je vais souvent, vous savez, en Touraine, et que je peins tout, presque tous les jours au bord de la Loire, face à la chapelle qui contient les restes de Léonard, et je pense tous les jours de ma vie, je pense à Léonard. J'ai vu un jour un Indien des Indes qui venait directement de Roissy, avec sa sœur, qui n'était jamais venue en Occident. Il l'a conduit au Clos Lucé, j'étais étonné, directement, et il a dit, c'est parce que c'est là l'Occident. C'est l'incarnation de la pensée occidentale. Personne ne pourra jouer le rôle de Léonard dans l'histoire de la peinture. Personne, tant que nous sommes dans ce cycle de cette humanité humaniste, qui, je dis, est à la fin.
Fable de la langue mordue par les dents.
Il a écrit, on doit le dire, des fragments. Hein, son écriture est aussi inachevée que sa création artistique, puisque le traité de la peinture eh bien, n'existe pas. Il est proposé par des interprètes contemporains, mais il n'y a pas de traité cohérent, bouclé, si on peut dire, par Léonard de Vinci lui-même. Et des fragments, fragments sur l'anatomie, fragments sur les machines, fragments sur le vol des oiseaux, plus une masse de plus en plus importante, parce que à la suite de la découverte des manuscrits de Madrid, je crois que c'est en 1965, il y a eu de nouveaux textes de Léonard qui sont apparus, tout un matériel extraordinaire et inattendu sur les fables, les plaisanteries, les devinettes, les pronostics, etc., où on voit Léonard utiliser un matériau qu'on a commencé à bien répertorier, que maintenant on maîtrise assez bien, un matériau traditionnel, populaire, folklorique, etc., pour en jouer autrement. Et ces textes-là sont tout à fait fascinants. Ils sont d'autant plus fascinants que une des rares personnes qui se soit vraiment intéressée de manière rigoureuse à l'intimité de Léonard de Vinci, et vous avez bien compris, je parlais de Freud, naturellement, eh bien, alors même qu'il s'intéresse à l'intimité de Léonard, trouve le moyen de dire que, bon, Léonard a écrit des fables et des différents petits textes, chose bien peu digne d'un si grand génie. Alors, les psychanalystes ont réglé le problème de Freud par rapport à Léonard de Vinci, on comprend très bien comment il peut y avoir ce jugement de la part de Freud. Mais c'est vrai que les fables, devinettes et autres pronostics de Léonard sont un matériau surprenant pour nous aussi aujourd'hui, pour leur donner un sens. Bon, et alors, il y a dans tous ces textes, cette masse donc de textes, Léonard n'est pas le seul artiste de l'époque à écrire. Hein. Il écrit pas pour les autres, hein, il écrit pour lui, de gauche à droite, hein, pardon, de droite à gauche, l'écriture au miroir. Dans tous ces textes, surprenants, mais dont on peut faire malgré tout une histoire, on peut reconstituer les conditions objectives de production, il y a un texte qui demeure vraiment énigmatique à mes yeux, c'est le très fameux, pour d'autres trop fameux, Souvenir d'enfance de Léonard, une des premières notes étonnantes qu'il écrit, je crois, dans les années 1480-90, alors qu'il est à Milan, et je le rappelle, hein, ce texte, mais un de mes premiers souvenirs d'enfance est que, quand j'étais au berceau, un Milan venait se poser sur le bord de ce berceau et m'introduisait la queue dans la bouche et me frappait à plusieurs reprises les lèvres de cette queue. Bon, souvenir étrange. Souvenir d'enfance, évidemment, impossible. Souvenir d'enfance, si on le rapporte à l'intention de Léonard quand il écrit ce texte, eh bien, c'est effectivement, il utilise une fable traditionnelle, comme l'a montré Meyer Shapiro, c'est pour indiquer qu'il est prédestiné à s'occuper du vol des oiseaux. Mais la faiblesse d'interprétation propose Léonard lui-même, puisqu'il dit, ce souvenir indique que j'étais prédestiné à m'occuper du vol des oiseaux. La faiblesse d'interprétation par rapport à la force du souvenir, même dans sa fable, montre que quelque chose d'autre travaille le texte de Léonard que simplement son interprétation. Et il se trouve que ce quelque chose d'autre, Léonard l'a écrit sur la page qui est en face du souvenir d'enfance. C'est une fable, comme par hasard. Et la fable dit la chose suivante, à peu près, hein, je n'ai pas le texte sous les yeux, c'est donc de mémoire. La fable dit à peu près qu'une guenon étant grimpée dans un arbre, il trouve un nid plein de petits oiseaux, uccelletti, à peine en âge de voler. Presque tous s'échappent, il n'en reste qu'un. La guenon s'en empare et rentre chez elle, folle de joie, et l'embrasse tellement qu'elle l'étouffe. Bien. Et Léonard commente cette fable étrange et un peu sauvage aussi en disant « Cette fable est pour les parents qui ne châtient pas bien leurs enfants ». Bien, alors, étrange, le face-à-face entre le bébé au berceau, d'enfant avec une queue de Milan venant lui frapper entre les lèvres, et ce petit oiseau au berceau, emporté par une guenon. D'autant plus étrange ce face-à-face, si l'on pense maintenant, si l'on reprend l'interprétation Freud du souvenir d'enfance, comme quoi ce souvenir signifierait « ma mère m'a écrasé la bouche de baisers passionnés ». Je dis que si Freud s'est trompé à cause du fameux contresens sur le Milan et le vautour, il a malgré tout fait un très bon travail, puisque l'interprétation qu'il propose était déjà pratiquement donnée par Léonard Vinci lui-même dans la fable qui fait face au souvenir d'enfance.
Je créerai une fiction qui exprimera de grandes choses. Dessin d'ailes de machine volante. Filet, jonc, papier. Essai d'abord avec des feuilles de la chancellerie. Planche de sapin attachée par-dessous. Futaine, taffetas, fil, papier. Pour Gianni Antonio Di Mariolo, ne pas la faire avec des volets, mais pleine. La corde sera en cuir de bœuf bien graissé et les charnières aussi, à l'endroit où elle joue, ou à défaut, savonnée avec du savon fin. La hampe devra être en jonc robuste ou composé de différents morceaux de jonc et de la longueur que tu voudras, du moment que tu la fais par pièce. Les ressorts seront de fil de fer entre les charnières de chaque ressort d'épaisseur, de nombre et de longueur uniformes, pour qu'ils puissent se ployer tous simultanément et non l'un après l'autre. Et chaque ressort devra être pourvu d'une quantité de ces fils de fer dont il se compose. Mais si tu préfères ne pas faire usage de fils de fer, prends des bandes de cornes de bœuf pour fabriquer ces ressorts. Un moindre effort est requis pour élever l'aile que pour l'abaisser, car tandis qu'elle s'élève, le poids du centre qui tend à descendre l'aide considérablement. Demain matin, deuxième jour de janvier 1496, je ferai la courroie et l'essai. Fais-la en sorte que l'homme soit solidement maintenu dessus, en AB, de façon à ne pouvoir ni monter ni descendre, et qu'il exerce sa force naturelle avec les bras ainsi qu'avec les jambes. ferme, au moyen de planches, la salle d'en haut, et fabrique ton modèle grand et haut, et tu auras de la place sur le toit au-dessus. Et à tous égards, ce sera plus conforme à ton dessin que la place d'Italie. Et si tu te tiens sur le toit à côté de la tour, les hommes qui travaillent sur la coupole ne te verront pas.
Il a des raisonnements très intéressants sur la Lune. Par exemple, la Lune, bon, il pense tout à fait justement que la Lune reflète la lumière du Soleil, que la Lune ne brille pas par elle-même. Il pense bien que les planètes aussi font la même chose. Il est convaincu aussi que les étoiles font la même chose. Vous voyez, c'est là qu'il n'a pas pris conscience de la différence de distance. Il pense que les étoiles n'ont pas de lumière propre, que les étoiles sont éclairées par le Soleil. En fait, il est convaincu qu'il n'y a qu'un seul luminaire, c'est le Soleil, et il pense que les étoiles sont éclairées par le Soleil. Alors, à propos de cette histoire des sphères et du centre de l'univers, il réfléchit sur le fait que la Lune, réfléchissant la lumière du Soleil, si la Lune était une boule tout à fait métallique, parfaitement luisante, eh bien, quand le Soleil se réfléchit sur la Lune, on ne verrait pas le Soleil dans toute la surface de la Lune, mais seulement qu'au centre. Il dit, par exemple, quand on met des boules de métal au sommet d'un édifice, on ne voit qu'une toute petite image du Soleil. Alors pourquoi il pense que la Lune ne réfléchit pas comme une boule métallique? Eh bien, il a l'idée qu'elle est ridée, et ça c'est correct. Et qu'est-ce qui peut produire les rides? Eh bien, il voit très bien que quand il regarde le Soleil sur l'eau, que le Soleil, quand la mer est ridée ou la mer n'est pas ridée, ça présente un aspect tout à fait différent. Quand la mer est ridée, on voit le Soleil faire tout un sillon lumineux. Quand la mer, au contraire, est calme, le Soleil ne fait pas un sillon qui s'étend jusqu'à l'horizon, mais seulement un petit cercle. Alors il se dit, il y a donc de l'eau sur la Lune. Il se dit, ce sont les vagues de la Lune. Et il parle énormément de ces fameuses vagues de la Lune. Et ce sont les vagues de la Lune qui font que la Lune, quand elle réfléchit le Soleil, réfléchit uniformément sur toute sa surface et non pas seulement en un centre. Alors à partir de là, il continue à raisonner. Il se dit, donc la Lune a de l'eau. Et il pense que la Lune est humide, et il pense que l'humidité de la Lune, enfin là, il y a des pensées tout à fait antiques sur l'humidité de la Lune et l'influence de la Lune sur la végétation à cause de son humidité. Et puis, alors, il continue, et là, il est logique, il se dit, eh bien, supposons que la Lune est un océan, mais l'eau, elle est plus lourde que l'air. Alors comment ça se fait que l'eau de la Lune ne tombe pas sur la Terre? Il s'est dit, il y a un problème là, puisque dans la Terre, on a dit, il y a la Terre, il y a l'eau, il y a l'air, et puis vous allez remettre encore de l'eau par-dessus, mais cette eau-là, elle devrait retomber sur la Terre. Il dit, cela pourrait, les gens me donnent cela comme preuve du fait qu'il ne peut pas y avoir de l'eau sur la Lune. Mais il leur fait remarquer que l'eau de la Lune, elle est elle-même sur un support encore plus solide. C'est-à-dire que la Lune elle-même doit forcément avoir de la terre ou de la pierre, elle doit avoir une séquence semblable à celle de la Terre. Et ça, c'est très important. Ça va amener l'idée galiléenne, la Lune est un astre, la Terre est un astre. L'idée que les deux ont des centres. Il dit, il ne faut plus penser maintenant qu'il n'y a qu'un centre, qu'il y a le centre de la Terre avec la séquence terre, eau, air, feu. Mais il faut penser qu'il y a d'autres objets dans le ciel dans lesquels cette séquence recommence. Donc, la Terre n'est plus le centre du monde. Donc, il y a des astres différents.
Vers 1515, vision du déluge, pierre noire, 16 sur 20 cm, Bibliothèque royale de Windsor, dessin reproduit avec l'autorisation de Sa Majesté Elisabeth II.
L'idée du tourbillon du vent, je sais pas, qui est, et qu'il imagine à la fois comme une décoration, comme des cheveux, comme des, mais qui ont une étrange force intérieure, profonde. Et puis les découpes des nuages, les simples découpes des nuages, aussi ce rythme. Et ce dessin, alors, il est très actuel. Et justement, il correspond à ce que je disais tout à l'heure, de cette idée de la progression, du développement dans l'espace d'une forme, qui est au fond une recherche actuelle. Et en fait, il y a là justement un geste, mais un geste qui est en même temps descriptif d'une forme. Et il y a l'évolution de la forme dans ces volutes qui évoluent, qui se développent, et dans ces nuages dont le contour extérieur évolue, et ici dans sans doute ces vagues qui se développent comme un mouvement. Mais ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'il n'est absolument pas spontané.
C'est un éloge de la fiction, l'œuvre de Leonardo, hein, d'une certaine façon. C'est un éloge de la fiction. On retrouve cela dans son œuvre graphique et on retrouve cela dans ce dessin. C'est-à-dire, ce qu'il a observé continuellement du mouvement des nuages, mais non pas du mouvement des nuages, on a toujours tendance à réduire Leonardo à quelqu'un qui ne ferait qu'enregistrer mécaniquement les choses. Non pas du mouvement du nuage pour le mouvement du nuage, mais du mouvement du nuage comme emportement du monde. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il découvrait finalement que les rivières qui le fascinaient tellement, l'érosion des rochers, venaient des nuages. Eh bien, lorsque Leonardo dessine le mouvement des nuages, il dessine en même temps, il perçoit en même temps toutes les conséquences de ce mouvement des nuages. Et on a ici, avec le déluge, littéralement l'invention des rivières et ce qu'il peut en être de l'ordre même du monde. Les rivières viennent des nuages, viennent de la pluie, elles aboutissent à la mer, et nous sommes ici dans un déluge où les nuages emportent, et où le dessin emporte le monde, et emporte le monde dans un imaginaire qui fait que du ciel au fleuve, à la mer, la terre se trouve recouverte et retrouver sa propre destinée d'anarchie et de déluge et de destruction.
Italo Rodin.
Mais je trouve des dessins d'une très grande sérénité.
Les déluges sont d'une grande sérénité.
Oui, je pense qu'ils me donnent la même sensation des photos des vrais orages ou des cyclones. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit, on a un petit trou, on peut penser d'être protégé et on peut observer quelque chose de terrible. Mais qu'on connaît sa démarche, combien ça va durer.
Il domine la situation,
oui,
en quelque sorte.
On peut très bien observer un cyclone si on y réfléchit.
Il n'y a pas de panique. Hein.
Non, je ne pense pas qu'il y ait de panique.
Pourquoi est-ce que Vasari parle de Terribilità à propos de Léonard? Je crois qu'il faut faire très attention parce que Vasari manie très bien le vocabulaire esthétique qu'il emploie. Je crois que, premièrement, il fait référence à l'aspect intransigeant des recherches, des concetti de Léonard. C'est-à-dire Léonard est un mental, la pittura è cosa mentale, c'est un mental et en tant que tel, sa recherche mentale ne souffre pas de compromis. D'où des œuvres perdues ou inachevées, ou etc., ou même commencées, mais à peine commencées à esquisser et abandonnées. Le concept de Léonard, ça consiste par exemple à dessiner des machines, mais qui ne sont pas dessinées pour fonctionner. Quand on reconstitue les machines de Léonard, on fait ce que Léonard n'a jamais fait. C'est-à-dire que ce sont des idées de machines, des concepts de machines. Quand on les fait fonctionner, elles ne fonctionnent pas. Mais c'est une recherche théorique mentale sur la possibilité d'un mécanisme, sans chercher vraiment à l'appliquer. Léonard, quand il veut appliquer, applique, mais quand il dessine des chars d'assaut ou des sous-marins, il ne cherche pas du tout à appliquer. Peut-être que l'idée du sous-marin lui est venue de l'histoire d'Alexandre, du roman chevaleresque de l'histoire d'Alexandre, où Alexandre descend au fond de la mer, dans une machine. Bon, donc l'idée d'un ingénieur technologique est vraie pour certaines machines de guerre, pour des remparts, pour l'irrigation, où Léonard s'est beaucoup occupé d'irrigation, etc. Mais d'autres machines, on dit Léonard c'est la science-fiction, oui, si on accepte l'idée de la science-fiction, ne cherche pas à construire ce qu'elle imagine. Il y a ça, et je crois que la Terribilità, quand Vasari dit ça, eh bien, il pose simplement l'arrière-plan de la grâce de Léonard. C'est-à-dire, si Léonard, c'est la grâce, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, à l'arrière-plan de cette grâce, il y a très souvent chez Léonard le terrible. C'est bien, je crois que l'idée de terribilita, si on sait la prendre, hein, telle que Vasari la donne, elle donne peut-être une, non pas une clé, j'aime pas le terme de clé, mais disons une piste de recherche ou d'hypothèse d'interprétation sur une sorte de cohérence intime de Léonard dans ses œuvres, dans sa recherche et dans l'ensemble de sa production, inachevée ou achevée, et de ses écrits. Eh bien, c'est la fascination pour l'informe qui précède la forme. Et l'idée que ce qui l'intéresse, c'est ce passage, ou bien naturel, ou bien artistique, de l'idée première, du chaos originel, de la conception, qu'elle soit divine ou qu'elle soit humaine, à progressivement et par sédimentation successive et travail et retravail, la définition d'une forme qui va confondre aussi bien l'ouragan et les tourbillons de l'eau d'un ouragan que la courbe d'une chevelure. Les dessins de chevelure de Léonard ressemblent, et tout le monde l'a dit, remarqué, mais c'est une évidence, aux dessins des eaux des ouragans. C'est-à-dire que de l'informe à la forme, du chaos à la grâce, je crois que c'est ça ce qui intéresse fondamentalement Léonard.
Comment se sauver pendant la tempête ou le naufrage en mer ? Avec dessin. Il faut un vêtement de cuir avec, sur la poitrine, un double ourlet de la largeur du doigt, également double depuis la ceinture jusqu'au genou. Que le cuir dont il est fait soit complètement imperméable à l'air. Si tu es obligé de te jeter à la mer, gonfle les pans du vêtement par les ourlets de la poitrine et précipite-toi à l'eau. Laisse-toi porter par les vagues s'il n'y a point de proche rivage et que tu ne connais pas la mer. Garde toujours dans la bouche l'extrémité du tube par où l'air s'introduit dans le vêtement. S'il te faut prendre une ou deux inspirations et que l'écume t'en empêche, aspire par la bouche du tube l'air qui se trouve dans le vêtement.
Une vie, une œuvre, Léonard de Vinci, ou la curiosité omniprésente, par Pascal Charpentier. Avec Daniel Arras, Marcelin Plenet, Hubert Reeves, Pierre Rosenberg, Italo Rota et Olivier Debré. Extrait des carnets de Léonard de Vinci, lu par Jacqueline Taous. Mixage Arlette Adrian et Jean-Mathieu Zande. Réalisation Josette Collin.